Mondial Sport, Christophe Guérin-Dian.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Mondial Sport en direct jusqu'à 22h temps universel. Programme très chargé ce soir, le Classico Real-Barça et évidemment deuxième acte de la semaine. Pierre Chaperon sera avec nous de Madrid, sitôt le match terminé, le derby londonien, Tottenham-Arsenal au menu de la Première Ligue. Et puis la reprise de la MLS, le championnat nord-américain qui attire de plus en plus les dollars et les stars, plus forcément en fin de carrière. Le tour du Rwanda à la une de l'actualité africaine qui nous sera détaillé par Antoine Grenier, l'Érythréen Merawi Kudus, toujours en jaune, mais pour 7 petites secondes seulement, à 24 heures du dénouement. Gros plan sur le club de foot de Constantine, en Algérie, tout proche d'une qualification historique pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On parlera également de la troisième journée de la Ligue africaine de basket, compétition des clubs d'élite du continent. Enfin, reportage sur une discipline qui devrait mettre la tête à l'envers à ses pratiquants acrobates lors des Jeux Olympiques à Paris. Le breakdance, adoubé par le comité d'organisation en tant que sport additionnel, une vraie reconnaissance pour un art né dans la rue il y a bientôt 50 ans. Allez, on ne traîne pas le football et sa riche actualité pour démarrer dans quelques minutes. Real Barça, sommet de la 26e journée de Liga, deuxième classico en moins d'une semaine à Santiago Bernabéu. Si vous ne gardez pas un œil sur un écran, un petit peu de patience, on retrouvera Pierre Chaperon dès le coup de sifflet final. En attendant, un détour par Londres pour la 29e journée de Première Ligue avec Tom Williams. Bonsoir Tom.
Bonsoir Christophe.
L'attraction de la journée, c'était le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. Score final un partout, mais les Tom peuvent s'estimer heureux.
Oui, vu la physionomie de la rencontre, on doit penser que c'était les joueurs de Tottenham qui étaient les plus contents au coup de sifflet final. Arsenal a pris les devants avec un but en contre marqué par le Gallois Aaron Ramsey dans la 16e minute. Son dernier but dans le derby avant son transfert à la Juventus. Tottenham a peiné dans le jeu. Il a fallu un penalty d'Harry Kane pour égaliser en deuxième mi-temps. Arsenal a aussi obtenu un penalty en temps additionnel, mais le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a vu son tir repoussé par Hugo Lloris. Un premier nul de la saison pour Tottenham, mais après deux défaites consécutives contre Burnley et Chelsea, c'était un nul au parfum de victoire pour les Spurs, qui restent troisième au classement et préservent leur avantage de 4 points sur Arsenal, logiquement déçu par ces deux points perdus.
Oui, déçu, d'autant que les Gunners cèdent leur quatrième place à Manchester United, qui a battu Southampton 3-2, grâce avant tout à Romelu Lukaku.
Oui, victoire dans la difficulté pour United, mais victoire tout de même. Et s'il y a quelqu'un dans l'effectif d'Ole Gunnar Solskjaer qui a profité de l'avalanche de blessures qui a frappé les Red Devils ces dernières semaines, c'est bien Romelu Lukaku. Southampton a pris les devants deux fois avec des buts signés Jeanne Valery et James Ward-Prowse, mais Andreas Pereira a répondu dans un premier temps, puis Lukaku a marqué deux fois et du pied droit pour égaliser et donner la victoire à United. Le Belge est à 4 buts en 2 matchs et voici United de retour aux places pour la Ligue des Champions, mais avec une infirmerie toujours aussi pleine. Le retour de Marcus Rashford en tant que titulaire après sa blessure à la cheville subie contre Liverpool le week-end dernier était une bonne nouvelle, mais Alexis Sanchez était contraint de sortir en premier mi-temps avec une blessure à un genou. Et Solskjaer a déjà dû faire son Nemanja Matic, Ander Herrera, Juan Mata, Jesse Lingard, Anthony Martial, Antonio Valencia et Phil Jones. À noter aussi que Paul Pogba, qui a raté un penalty en fin de match aujourd'hui, sera suspendu pour le quart de finale retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain mercredi. Il s'annonce encore moins bien pour United après le 2-0 incassé au match aller.
Et pendant ce temps, Tom, le chassé-croisé continue dans la course au titre. Manchester City a repris provisoirement la première place en attendant le match de Liverpool demain contre Everton.
Oui, City a gagné 1-0 à Bournemouth pour prendre un avantage provisoire de 2 points sur Liverpool qui se déplace à Everton dimanche dans le derby du Merseyside. City a eu l'habitude de gagner facilement contre Bournemouth ces dernières années, mais les Cherries ont défendu en nombre et n'ont pas produit la moindre frappe au but. C'était finalement Riyad Mahrez, l'ailier algérien de City, qui a concrétisé la domination des visiteurs dans la 55e minute avec un tir à rater de son pied droit. Mais tout n'était pas parfait pour Pep Guardiola, entraîneur des Citizens, qui a perdu son meneur de jeu Kevin De Bruyne, blessé aux ischio-jambiers, et son défenseur John Stones, sorti par précaution avec une blessure musculaire.
Merci beaucoup Tom Williams en ligne de Londres. Le Classico, allez, on y va tout de suite, car Pierre Chaperon nous attend déjà à Santiago Bernabéu. Bonsoir Pierre.
Ouais, on joue les dernières secondes de ce Classico. Un peu chaud là sur la fin avec des petites frictions entre Messi et Reguilón. Le Real, le Barça qui est en train de gagner 1-0, qui est en train de mener 1-0, but de Rakitic à la 26e minute sur un superbe 1-2 avec Sergio Roberto. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. Victoire donc du Barça 1-0 contre le Real Madrid. On revient un peu sur ce match. Une victoire donc qui aurait pu être contestée si le Real n'avait pas été timoré, comme s'ils avaient peur de prendre une valise, comme mercredi en Coupe du Roi, on passe aux carences dans la finition d'un Vinicius, ou la difficulté de construire des actions de Benzema, où tout s'étire de loin comme signe d'impuissance de la part de Casemiro et Kroos. Ce soir, le Real est relégué à 12 points de son rival, c'est peut-être en ce 2 mars 2019. Eh bien, la fin des espoirs de titre en championnat pour le club madrilène. Et pour le Barça, eh bien, un pas de plus vers le titre, un nouveau titre en Liga. Nous n'en sommes pas là. En tout cas, beaucoup de questions se posent dans la capitale espagnole. Est-ce le début d'une révolution à prévoir cet été pour le Real? Est-ce que des joueurs comme Kroos ou Casemiro sont à niveau? Ne manquait-il pas ce soir un très, très grand joueur? Des questions qui rejaillissent dès les périodes de troubles. Quoi qu'il en soit, le Real jouera sa saison dès ce mardi en Ligue des Champions contre l'Ajax, 8e de finale retour de la Ligue des Champions. À l'aller, les Madrilènes l'avaient emporté 2-1 à Amsterdam.
Merci beaucoup Pierre, timing parfait. Voilà donc sur le coup de sifflet final, victoire du Barça 1-0. On vous retrouvera demain sans faute Pierre pour un bilan plus complet, plus à froid, plus reposé de ce Classico avec l'ensemble des réactions que vous allez recueillir tout à l'heure dans la zone d'interview. Quelques autres résultats en Europe. En Serie A, le derby romain de la 26e journée a tourné à l'avantage de la Lazio, vainqueur large de la Roma 3-0. En Bundesliga, le Bayern est allé se balader véritablement 5-1 à Mönchengladbach et devient provisoirement co-leader avec le Borussia Dortmund. Quant au Paris Saint-Germain, bah tout va bien pour lui, même s'il a connu quelques difficultés pour venir à bout de Caen 2-1 lors de la 27e journée de Ligue 1 grâce à un doublé de l'inévitable Kylian Mbappé. Changement de fuseau horaire à présent, cap sur les États-Unis où la saison 2019 de MLS, la Major League Soccer, s'ouvre ce samedi. Ça concerne aussi le Canada. Michael Dacosta est avec nous à New York. Bonsoir Michael.
Bonsoir.
Avant d'évoquer l'aspect purement sportif de cette MLS, on va planter un petit peu le décor. MLS, toujours plus riche, toujours plus populaire. La preuve en quelques chiffres.
Oui, tout d'abord, les droits télé sont en hausse constante. On passe de 450 millions sur les trois dernières années à 600 millions pour la période 2019-2022. Également, au niveau des affluences moyennes, elles sont à peu près équivalentes à celles de la Ligue 1. On a 19 500 de moyenne la saison passée. Et les attentes sont environ à une hausse jusqu'à 21 000 de moyenne pour cette saison. Les deux exemples qui sont frappants dans la Ligue, ce sont les Seattle Sounders qui comptent 45 000 abonnés et Atlanta FC, l'équipe championne en titre, qui est sold out, qui est plein à tous les matchs, qui compte 65 000 abonnés. Également, un point intéressant à noter, c'est la construction de nouveaux stades en un temps record. Minnesota FC a construit son Allianz Arena en 19 mois. C'est un stade qui a coûté 300 millions d'euros, un écran ultra moderne de 23 000 places. Et également l'Inter Miami FC qui va intégrer la franchise la saison prochaine, la franchise de David Beckham, qui construit actuellement un stade de 34 000 places. Mais également aussi Austin FC qui intégrera la Ligue en 2021, qui vient de démarrer la construction d'un stade de 30 000 places qui devrait être livré en 18 mois maximum.
Alors, une Ligue donc en plein développement, remportée l'an passé par Atlanta, mais cette saison, ça pourrait être un petit peu plus compliqué pour la franchise de Géorgie.
Oui, le champion en titre qui compte 65 000 abonnés a perdu ses deux éléments principaux. Tout d'abord, Tata Martino, le technicien argentin passé par le FC Barcelone, qui est devenu sélectionneur du Mexique, mais aussi son meneur de jeu paraguayen Miguel Almiron, qui est parti en première ligue à Newcastle en janvier, contre un chèque d'environ 20 000 euros. L'entraîneur actuel, le nouvel entraîneur, c'est Franck Debourg, connu des champions européens. Et leur recrue Florentin Pogba viendra également compléter l'équipe avec l'attaquant vénézuélien Joseph Martinez, qui est l'ancien joueur du Torino, qui est le meilleur buteur de la Ligue, là, son passé avec 34 buts. Cette équipe qui a été créée en 2015 aura bien sûr très fort à faire face à la concurrence. Tout d'abord les New York Red Bulls, qui ont perdu leur prodige Tyler Adams, parti au Red Bull Leipzig. Le Toronto FC de Michael Bradley, de l'international congolais Chris Mavinga. Et également le Montréal Impact de Rémi Garde et de l'international algérien Safir Taider, qui seront très compétitifs dans cette conférence Est. À l'ouest, on a les deux équipes de Los Angeles, le Galaxy de Zlatan Ibrahimovic et le Los Angeles FC de Carlos Vela, et également le Seattle Sounders qui compte Jimmy Traoré en tant qu'entraîneur adjoint, qui auront également leur mot à dire dans cette lutte pour le titre 2019. Côté joueurs, on a quelques nouveaux venus, mais on a remarqué une tendance, c'est qu'il y a moins en moins de stars en dernière partie de carrière, sauf par exemple Nani, l'ancien international portugais de Manchester United et du Sporting Lisbonne, qui rejoint le Orlando City de l'international sénégalais Lamine Sané. À noter, dernier point, qu'une nouvelle franchise, la 24e, Cincinnati FC, avec l'ancien défenseur central de Montpellier de Troyes, Mathieu Delaplagne, intègre et découvrira la MLS pour cette saison 2019.
Alors lui, on est déjà une des plus grandes stars de cette MLS, c'est évidemment Zlatan Ibrahimovic. Il attaque une deuxième saison avec le Galaxy et toujours plein d'objectifs, hein, en tête à 37 ans.
Il l'a dit lui-même, il veut battre tous les records individuels sur une saison pour un attaquant, devenir le meilleur buteur de la Ligue en battant le record de buts inscrits sur une année qui est de 34, être sacré meilleur passeur mais aussi MVP, meilleur joueur de la saison régulière et ramener le titre de champion au Galaxy qui l'ont remporté pour une dernière fois en 2011 avec un certain David Beckham. Alors Zlatan a beau avoir traversé l'Atlantique, il n'a perdu en rien de sa personnalité et de sa sortie remarquée dans la presse pour le plus grand bonheur des fans et du public américain qui adore vraiment le côté ultra confiant de la star suédoise. Il poste régulièrement sur ses réseaux sociaux et d'après plusieurs proches, il est dans la meilleure forme physique de sa vie. Après une première saison de feu à titre individuel, 22 buts la saison passée sur 27 matchs de saison régulière, dont un triplé pour son premier match en Major League Soccer, Zlatan sera de nouveau suivi et prêt. Il sera l'un des acteurs à suivre de cette saison 2019 de Major League Soccer.
On suivra bien évidemment Zlatan Ibrahimovic et tous les plus grands acteurs de cette MLS. Merci beaucoup Mickaël Dacosta en direct de New York. Allez, on passe à l'actualité africaine avec vous, Antoine Grenier, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
C'était un match en retard de la quatrième journée de Ligue des Champions au football. Les Algériens de Constantine face aux Égyptiens d'Ismaili, ça valait le coup d'attendre.
Oui, le match aurait dû se jouer mi-février, sauf qu'Ismaili à ce moment-là venait à peine d'être réintégré à la Ligue des Champions, disqualifié par la CAF suite aux incidents des jets de projectiles qui avaient émaillé sa rencontre face au club africain. Sauf que, surprise, Ismaili a ensuite été réintégré au groupe C par cette même confédération africaine de football. Bref, alors le match s'est déroulé cet après-midi entre des Constantinois en tête du groupe et bien décidés à le rester, et des Égyptiens au bord de l'élimination, bien décidés eux à inverser la tendance. C'est d'ailleurs Ismaili qui a le mieux entamé la rencontre en marquant sur corner dès la 13e minute. Réaction algérienne, égalisation juste avant la mi-temps, là aussi sur corner, mais il était écrit que les Égyptiens entameraient mieux leur mi-temps que les Algériens. 51e minute, Ismaili reprend l'avantage 2-1, avant que finalement Zalani, déjà buteur, ne s'offre un doublé pour Constantine et que Bamboula, le Congolais, l'ancien de Dijon, n'offre un succès important aux Constantinois. Denis Lavagne, l'entraîneur des Algériens, voulait voir le verre à moitié plein et ne retenir que la victoire.
Oui, c'est vrai que ça a été un match avec beaucoup de rebondissements et un match très intense entre deux équipes qui voulaient gagner et puis l'équipe d'Ismaili qui est une bonne équipe avec des bons attaquants, donc qui est venu jouer son va-tout et qui nous a mis en difficulté, mais on a su réagir et mes joueurs ont montré beaucoup de force de caractère pour revenir au score deux fois et puis prendre l'avantage. Alors c'est vrai sur trois coups de pied arrêtés, mais on savait que c'était une des faiblesses de cette équipe et on a parfaitement su en profiter.
Vous encaissez votre premier but à la 13e minute, le deuxième à la 51e, en début de première période, en début de seconde période. Comment vous expliquez cette fébrilité en début de mi-temps?
Sur le premier but, on s'est fait surprendre sur un corner qui a été joué à deux, sur une combinaison, alors qu'on avait fait une entame correcte. Mais sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que on avait égalisé juste avant la mi-temps. C'est vrai que ils nous ont surpris parce qu'ils ont de suite attaqué très fort cette deuxième mi-temps. Et puis c'est une équipe de qualité et ils étaient venus vraiment pour gagner parce que il leur fallait à tout prix gagner pour encore avoir certaines chances de se qualifier. On a su à chaque fois réagir. Et je pense que c'est dans tout ce qu'il faut retenir, c'est cette force de caractère et cette capacité à chaque fois à faire face à l'adversité pour arriver à en remporter les matchs.
Là, vous avez 10 points dans votre groupe. Vous avez 6 points d'avance sur le club africain. Mathématiquement, c'est pas fait, mais est-ce qu'on se dit pas, après un match comme ça, ça va passer, quoi?
Non, il nous faut encore un point, donc on se dit ça va être encore compliqué vendredi, parce que le club africain va aussi jouer son va-tout, ils n'auront plus rien à perdre, il faudra qu'ils prennent les 3 points, donc ça va être encore difficile, on le sait, on y est préparé. Mais c'est vrai que bon, on se dit qu'avec 10 points, on est toujours invaincu dans cette compétition, on est à domicile, devant notre public, avec bon, on est quand même costaud, et on se dit qu'on devrait y arriver, mais il reste quand même encore ce petit point à prendre et ça sera pas facile.
Voilà, Denis Lavagne, l'entraîneur du CS Constantine. Prochaine journée de cette Ligue des Champions, ce sera vendredi.
Voilà, on passe au cyclisme, le Tour du Rwanda qui s'achèvera demain, c'est toujours la 11e édition.
Et une dernière étape redoutable dans Kigali que l'on va évoquer dans quelques instants, qu'on va même évoquer maintenant avec notre envoyé spécial Thomas de Saint-Léger. Il est en ligne avec nous. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde.
Alors à la veille de l'arrivée, Merawi Kudus, l'Érythréen d'Astana, est toujours en jaune. Mais les positions sont très très serrées au général, on va en reparler. Et avant ça, évidemment, un petit mot de l'étape du jour, hein, Thomas. La première des deux classiques de Kigali, avec ses monts et ses pavés. Et c'est encore un Érythréen qui s'est imposé.
Oui Antoine, mais il s'est passé quelque chose de curieux à l'arrivée avec deux coureurs qui ont levé les bras, Jacob Debessai et 21 secondes plus tard, Fedeli, l'italien de Delco, le vainqueur de la première étape, pensait être tout seul devant, c'est raté. C'est bien Jacob Debessai qui s'impose comme son frère Mekseb l'avait d'ailleurs prédit à notre micro en milieu de semaine, le jeune prodige érythréen, impressionnant, tout simplement trop fort pour ses camarades d'échapper, comme le jeune Français, jeune membre de l'équipe de France des moins de 23 ans, Aurélien Doléato.
Ah, franchement, il nous a fait péter la pédale dans le mont en pavé, là. Et après, j'ai attendu derrière pour qu'on soit plus nombreux pour revenir. Et il était tout seul, on était 5 à tourner, on n'est jamais revenu et il est vraiment fort, cet Érythréen. Moi, je connais pas ces nations et bah, l'Érythrée, ça me... Des fois, hier, ils ont roulé tout le premier col devant et ils sont vraiment costauds. Et c'est vrai que lui, il a 3 ans de moins que moi et il fait péter tout le monde à la pédale. C'est vraiment costaud, ouais.
Alors, l'autre image de la journée, Thomas, c'est la grimace de Merawi Kudus, son maillot jaune déchiré au niveau d'une épaule. L'Érythréen de l'équipe Astana a perdu du temps, mais pas seulement.
Oui, maillot déchiré après une chute à 7 km de l'arrivée. Le leader du général a ensuite réussi à recoller au groupe des favoris et même à faire le trou dans le dernier mur pavé où, comble de la malchance, il a crevé. A priori, rien de très grave concernant la chute, quelques coupures au niveau de l'épaule, mais la confiance est entamée et le capital temps s'effrite également. Merawi Kudus n'a plus que 7 secondes d'avance sur Tarame l'Estonien, 18 sur Badilati le Suisse et 31 sur Aguirre le Colombien. Ça nous promet un final explosif demain sur une étape courte, 62 km, mais très difficile avec 3 ascensions du terrible mur de Kigali. Le manager de l'équipe Direct Energy et donc de Rein Taramae, Jean-René Bernodeau.
Avec le parcours qu'il nous est proposé demain, c'est vrai qu'on ne sait pas qui va gagner ce tour parce qu'il y a du danger, il y a de la fatigue, il y a des équipes de 4, nous sommes encore 5, mais des écarts de si peu, c'est un jump, c'est en haut du mur sur les pavés, on est encore en lice pour gagner.
C'est ça, l'étape paraît courte sur le papier, mais elle peut faire des écarts importants avec ce fameux mur.
Aujourd'hui, 80 km, il y a eu des écarts, quelques écarts, et 60 km, je pense que ce n'est pas la distance, ce sera l'intensité. Et l'intensité, je suis sûr que les Africains mettront le feu. Puis des équipes qui arrivent en outsider n'ont rien à perdre, à nous d'en profiter.
Jean-René Bernodeau, le manager de l'équipe Direct Energy. Alors Thomas, vous l'avez évoqué, ce fameux juge de paix dans cette 11e édition du Tour du Rwanda, ce mur de Kigali, il faut nous en dire plus.
Alors c'est une ascension ajoutée il y a 4 ans par les organisateurs, ascension terrible à vous faire reculer 400 mètres à presque 15% de pente. En plus de ça, c'est une montée sur des pavés. Ça ressemble finalement au Tour des Flandres. Alors pour en parler, je vous propose d'écouter forcément un Belge qui connaît bien ce mur, Herman Bijsens, ancien coéquipier d'Eddy Merckx, plusieurs participations au Tour de France, au Classique du Nord. Il est au Rwanda pour la 9e année, cette fois-ci comme chauffeur.
Ah, le mur de Kigali, c'est incroyable. Peut-être 500 000 personnes là-bas. qui chantent, qui criaient. Oh, c'est des, comment on dit en français, c'est des poules de...
Chair de poule.
Chair de poule, voilà. Ouais, même que tu roules avec la voiture là-bas, ça donne des chairs de poule. Hein. J'ai presque jamais vu que, peut-être dans le Tour de France, l'émotion, ha, c'est très dur. Hein. Et j'espère que la pluie ne va pas tomber parce qu'autrement, ils ont des problèmes hein, là-bas. Hein. Oh là 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 là. Et surtout, ils vont faire 3 fois cette année. Hein. 3 fois, imaginez ça. Mais c'est formidable.
Formidable pour les spectateurs, peut-être un peu moins pour les coureurs qui en auront bavé jusqu'au bout. On pense par exemple à Clovis Cabzon Gabessolo, le dernier des Lions, le dernier Camerounais, toujours en course, mais bientôt enfin à la maison.
Allez, il vous reste une petite journée pour en baver vous aussi, Thomas de Saint-Léger. On vous retrouve évidemment demain pour l'épilogue de ce 11e Tour du Rwanda. Bonne soirée, Thomas.
Allez, on enchaîne avec le basket. Antoine, à Salé, au Maroc, la 3e fenêtre de l'Africa Basket League, la nouvelle formule de la Coupe d'Afrique des clubs. Le champion d'Afrique en titre participera à l'élite 8.
L'AS Salé qui a engrangé une 2e victoire de suite, cette fois en dominant les Tunisiens de la JSK Rouennaise, 77-70. Rencontre parfaitement géré par les Marocains et qui leur ouvre les portes de cette phase finale de ce championnat d'Afrique. La 2e place qualificative se jouera, elle, entre les Nigérians de River Hoopers et la jeunesse sportive de Kairouan, qui seront face à face demain lors de la dernière journée. Les Nigérians, difficiles vainqueurs cet après-midi du Slack, 76-75.
Oui, défaite rageante pour les Guinéens.
Et pourtant, ils avaient bien entamé la rencontre avant de jouer aux montagnes russes. Un 2e quart-temps perdu de 7 points avant un 3e gagné de 5. Le Slack s'incline et paye pour apprendre face à des équipes visiblement plus expérimentées. Oumar Kamara Sampil, chef de délégation du Slack, regrettait les petites erreurs de jeunesse de l'équipe, même s'il se satisfait d'avoir vu des Guinéens qui ont pris le match par le bon bout.
Oui, je pense que l'équipe est rentrée dans son tournoi aujourd'hui. L'équipe était prête à la jeu le collectif. Il y a eu des belles actions. Peut-être un peu trop d'euphorie parce qu'on a préféré le spectacle à un moment au jeu à l'assurance. Bon, ça c'est normal, un peu de fougue des jeunesses. Mais oui, l'équipe était bien rentrée dedans. À un moment donné, on n'a pas su faire la différence quand on pouvait. On n'a pas su faire les changements nécessaires pour fatiguer cette équipe qui, au troisième quart-temps, ben, n'avait plus de souffle. Donc, c'était à ce moment-là qu'il fallait accélérer et mettre beaucoup plus de pression, notamment sur le porteur de balle qui était complètement fatigué. Mais on les a laissé revenir et prendre confiance.
Oumar Kamara Sampil, le chef de délégation du Slack, l'équipe guinéenne qui jouera demain son dernier match dans cette Africa Basket League 2019, et ce sera face aux champions d'Afrique, l'AS Salé.
Et puis avant de quitter l'Afrique, Antoine, on va parler un petit peu de rugby Afrique. C'est le nouveau nom de la Confédération africaine qui a changé de président cet après-midi.
À l'issue de l'Assemblée Générale qui s'est tenue à Marrakech au Maroc, le Tunisien Khaled Babou accède à la présidence. Babou a profité du désistement de l'autre candidat en lice, le Ghanéen Herbert Mensah. Il succède ainsi au Marocain Aziz Boukja, qui a dirigé Rugby Afrique ces 17 dernières années. Ce dernier ne quitte pas totalement la Confédération puisqu'il a été élevé au rang de président d'honneur.
Mondial Sport sur RFI.
On va refermer ce Mondial Sport avec un sujet déjà abordé dans l'émission le week-end dernier, l'arrivée annoncée du breakdance au programme des Jeux Olympiques 2024 à Paris en tant que sport additionnel. Une manière, explique le comité d'organisation, de se rapprocher des jeunes. La question de savoir si c'est un sport ou pas n'est peut-être pas tout à fait réglée aux yeux du grand public, en tout cas, car les fans, eux, ne se la posent plus depuis très longtemps. Et ce choix de l'équipe de Tony Estanguet est accueilli avec joie par les pratiquants, les pionniers même, amateurs comme Chevronné, qui a rencontré Thomas Moulin cette semaine à Paris.
Un pas important, une chance de fou, une porte ouverte. Les B-boys et les B-girls, comme on les appelle, ne s'attendaient pas à voir leur discipline au programme des Jeux Olympiques. Une opportunité pour eux de la mettre encore un peu plus en lumière. Nacera nous explique les bases du breakdance, une danse très complète au fondement de la culture hip-hop.
En fait, on danse au sol, les mains et les pieds au sol en même temps. Et la gestuelle, elle se développe avec énormément de mouvements, des mouvements impressionnants qui s'appellent les power moves, en fait, qui sont des figures un peu acrobatiques, un peu gymniques, on va dire entre guillemets. Mais aussi, on a notre identité propre qui s'appelle les footwork et top rocking. C'est vraiment l'ADN même de la danse. Et ça, c'est en fait des jeux de jambes au sol. Cette danse-là, elle a une particularité, c'est que sa base, c'est un cercle.
Un cercle bientôt partie intégrante des anneaux olympiques. Pour cette pionnière de la discipline aux 30 ans de carrière, cette invitation au JO redonne à sa culture la place qu'elle mérite.
Ça redonne en fait du respect à ce qu'est le hip-hop et ça change surtout d'où il vient et comment est-ce qu'il a évolué, parce que franchement on peut pas dire que les gens ont soutenu le hip-hop, hein. On est un peu les pauvres de la culture, enfin bon voilà. En réalité aujourd'hui c'est comme si on nous donnait déjà la médaille, enfin le hip-hop va être pris à sa juste valeur.
Avec une crainte toutefois que l'épreuve des JO ne mette en avant que la performance athlétique au détriment des fondements artistiques du breakdance.
Vraiment notre identité c'est quand même de l'artistique. Si on a une étiquette qui s'appelle le breaking, c'est bien parce qu'il y a quand même des codes aussi à savoir et c'est pas que la gym. Nous, notre inquiétude elle est de savoir est-ce qu'on va quand même garder un petit peu de cette essence-là. C'est pas le hip-hop qui a été invité, c'est le break.
Une préoccupation aussi pour l'ambassadeur français de cette candidature, Mounir Biba. Dans le breakdance, la musicalité compte tout autant que les figures gymniques.
Des rotations sur la tête, le headspin, ce sont des choses que le public retient et connaît de la discipline, mais il y a des techniques beaucoup plus subtiles et il y a surtout une relation très 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 forte avec la musique. Sans musique, il n'y a pas de danse. Sans danse, il n'y a pas de break. Donc c'est vraiment une discipline qui compose ces deux caractéristiques, la danse et le côté athlétique qui en fait un sport de par ses compétitions mondiales.
Pour le nonuple champion du monde de la discipline, pas de doute, le breakdance peut beaucoup apporter au JO en cassant quelques codes du monde du sport.
L'âge n'est pas une barrière, le sexe n'est pas une barrière. Toutes ces questions-là qui parfois divisent ou séparent les gens, ça n'existe pas dans notre culture. Une fille peut rencontrer un garçon en compétition, un enfant peut rencontrer un adulte en compétition. Dans le sport, ça n'existe pas. Dans le sport, on a vraiment des barrières. Et c'est aussi ces barrières-là qu'on aimerait pouvoir faire évoluer et casser. Donc on a énormément de choses à apporter pour ces Jeux Olympiques. C'est vraiment un événement historique des deux côtés.
En attendant, l'épreuve olympique pourrait rassembler 16 hommes et 16 femmes qui s'affronteraient dans des battles, des défis en un contre un et en 2 minutes chrono. Un format déjà testé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires en octobre dernier et qui a rencontré un franc succès.
J'étais juge, le seul Français qui était enrôlé sur ce projet-là depuis 2 ans. On a vécu quelque chose vraiment d'extraordinaire là-bas. Une ambiance, une énergie, une communion avec le public. On a compris que quelque chose allait se passer. Ça n'allait pas en rester là. Et très rapidement, je me suis dit, pourquoi pas Paris 2024 ?
Reste la question de la notation. Pas un problème, selon Kamel Acharche, lui aussi membre des Vagabonds Crew et qui a vu le nombre de compétitions exploser ces dernières années.
Ça fait longtemps qu'on est là, on a de gros événements. C'est des compétitions qui sont internationales. On a le titre de champion du monde une fois qu'on a gagné. Donc il y a déjà un système de notation qui a été fait. On n'a pas attendu en fait de pouvoir participer au JO. C'est pas un souci. On va reprendre le même format qui se fait déjà et on va juste l'intégrer au JO parce que c'est complètement compatible.
Pour lui, les JO offriraient l'occasion à la France de prouver qu'elle est une place forte du breakdance mondial.
La France est l'un des pays les plus titrés au monde dans le break. On a vraiment beaucoup de battles. Franchement, la culture hip-hop et surtout break en France, elle est énorme. Elle est juste pas visible dans les médias, ce qui est dommage, mais je pense que là, on va y remédier avec les JO.
Loin d'être à hasard, donc, si le comité d'organisation a craqué pour le breaking, pour donner aux Jeux Olympiques une dimension plus urbaine et plus artistique.
Alors, et rappelons que le CIO doit encore donner formellement son feu vert à cette introduction du breakdance aux Jeux de Paris en 2024. La décision finale ne tombera pas avant décembre 2020, soit après les prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Voilà, on va pas se quitter sans vous avoir donné quand même 2 dernières infos. D'abord, le 100e titre de la carrière de Roger Federer. Ça y est, c'est fait. Le Suisse de 37 ans, 7e mondial, a remporté cet après-midi le tournoi de Dubaï en battant en finale l'étoile montante du tennis, le grec Stefanos Tsitsipas en 2-7, 6-4, 6-4. Federer devient le second joueur de l'ère Open, c'est-à-dire depuis 1968, à atteindre la barre des 100 trophées en simple derrière l'américain Jimmy Connors. Et c'est 109 sacres. Et puis une 5e médaille française au championnat du monde de cyclisme sur piste à Pruszków, près de Varsovie en Pologne. Benjamin Thomas a décroché l'argent dans l'épreuve de l'Omnium, c'est un ensemble de 4 disciplines, remporté par le néo-zélandais Campbell Stewart. Ces mondiaux se terminent demain et ce sera l'occasion pour nous d'en faire le bilan dans le camp tricolore avec le manager des Bleus. Pour l'heure, Mondial Sport se referme. Grand merci à Donatien Cahu et Laurent Philippot pour la réalisation. Pour écouter l'émission en podcast RFI.fr ou dans quelques minutes la page Facebook Mondial Sport, tout de suite c'est 24h en France avec Adrien Delgrange. Très bonne fin de soirée à tous et à toutes.